Daniel chapitre 2, verset 44. Et dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Bonjour à tous, frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à vous tous. Nous sommes aujourd'hui sur la troisième partie de notre série intitulée « Apprends-nous à prier ». Apprends-nous à prier. Et celle-ci s'intitule, comme le veut les paroles de la prière que Jésus nous a confiée, « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne. Et donc, frères et sœurs, que demandons-nous et que déclarons-nous lorsque nous prions que ton règne vienne? Et plus encore, à quel règne appelons-nous et de quel type de règne s'agit-il? Voilà quelques-unes des questions que nous aimerions poser aujourd'hui, sur lesquelles nous aimerions méditer et pour lesquelles nous voudrions obtenir des réponses du Seigneur. Que ton règne vienne. Tout d'abord, le langage de Luc, chapitre 11, je crois, qu'on avait vu la dernière fois. À travers le langage, il est évident qu'il s'agit du règne de Dieu. En nous adressant à Dieu, nous sommes appelés à lui dire et à conformer notre vie d'une telle manière que nous puissions en toute honnêteté déclarer que ton règne vienne. C'est ton règne en nous adressant à Dieu. C'est le règne de Dieu. Non plus le règne des hommes qui était mentionné en passant dans notre lecture biblique au chapitre 2 de Daniel et au verset 44. Par rapport à tous ces royaumes, depuis Babylone jusque au royaume avec un S d'Europe, jusqu'à l'Union européenne de nos jours, qui était représentée par ses orteils de fer et d'argile, c'est-à-dire une union fragile, de la même manière que l'argile et le fer ne s'unissent pas bien et ne sont pas de nature à se réunir, moléculairement parlant. De même aussi, les derniers royaumes qui sont représentés par cette vision et que nous connaissons comme étant ceux constituant cette Union européenne ne seront pas bien unis. Et au temps de ces rois-là, ou de ces présidents, de ces royaumes, de cette démocratie, dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Le royaume de Dieu pour lequel nous prions est un royaume qui subsistera éternellement, qui ne passera pas à un autre peuple, mais les royaumes de ce monde deviendront et seront remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, comme c'est marqué dans Apocalypse. Et d'ailleurs, je me propulse un peu à l'avant, mais parce qu'il n'y a pas de suspense. Nous voulons étudier la parole de Dieu, mais sans suspense. La parole de Dieu, ce n'est pas un roman. Dès le début, je peux donner tous les éléments, ça sera quand même une étude fidèle et appropriée de la parole. D'ailleurs, que disait Jésus au sujet de ce règne? Dans Jean chapitre 18, Jean chapitre 18, versets 33 à 37, nous lisons le suivant, où il est écrit. Par rapport au royaume pour lequel nous sommes et nous avons été appelés par Jésus lui-même à prier. Jésus disait dans son entretien avec Pilate, alors que Pilate l'interrogeait sur son identité. Je lis au verset 33, Jean chapitre 18. Alors, je vous passe les détails du contexte, vous connaissez, Jésus était dans le prétoire, prêt et sur le point d'être crucifié, et il avait cet entretien avec Pilate. Alors Pilate rentra dans le prétoire, et ayant fait venir Jésus, il lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Es-tu le roi des Juifs ? Es-tu roi ? Es-tu roi ? Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même ? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Vous voyez, Jésus n'était pas de nature à sauter sur la moindre apparente occasion d'évangéliser quelqu'un. Il voulait savoir, tu le dis de ton propre cœur, parce que tu as envie de réfléchir sur la question, ou juste parce que quelqu'un te l'a dit de moi. C'est une leçon en soi. Parfois, je sais que moi je l'ai été par le passé, dans les années passées, je pensais que chaque personne me posait une question était une opportunité de salut ou d'évangélisation. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas et cela Jésus le savait. Parfois, certains ne sont pas animés des meilleures intentions lorsqu'ils posent leurs questions. Et c'est pour s'assurer et discerner cela que Jésus posa cette question. Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même ? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pourquoi tu poses la question ? Pilate répondit, « Suis-je juif, moi ? Ta propre nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Alors Pilate lui dit, « Es-tu donc un roi ? » Ou dans d'autres versions, « Es-tu donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis que je suis roi. Je suis né à cette fin et pour cette raison je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Nous avons ici des éléments qui nous permettent de commencer à fournir et à recevoir des réponses à nos interrogations sur le type de royaume pour lequel nous sommes appelés à prier dans notre relation à notre Père céleste et à Dieu. Quel est ce royaume? Quelle est la nature de ce royaume? Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus était le roi des Juifs, il est le roi des rois. Donc il est également le roi de son peuple. Les Juifs étaient alors l'Église de Dieu. Aujourd'hui, ils ne la sont plus parce qu'ils sont apostats et récalcitrants à l'évangile de Jésus-Christ. Toutefois, alors, ils l'étaient. Et donc, dire que Jésus était roi des Juifs, c'est dire que Jésus était roi de l'Église de Dieu sur la terre. Ce qu'il est encore aujourd'hui. Quoique cette Église ait changé de visage. Toutefois, c'était et ce sont encore ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Certes, il y en a peut-être qui croient sincèrement en Dieu, mais bibliquement parlant, ce sont là le peuple de Dieu et son Église. Certains sont peut-être en chemin vers cela, désireux, mais attention, parce que comme on dit, comme le dicton le dit bien, l'enfer est rempli de bonnes intentions. Et donc, Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc le royaume et le règne pour lequel nous prions est un règne et un royaume pas de ce monde. Nous prions pour un règne et un royaume qui est différent des royaumes et des règnes de la terre. Si différent d'ailleurs que lorsqu'il viendra, tous les autres royaumes et règnes seront anéantis. Lorsque le roi de ce royaume viendra, les royaumes de ce monde ne peuvent coexister avec le royaume dont il est ici question. Le royaume de Dieu dont Jésus est roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et nous voyons ici également au verset 37 que nous venons de lire que le royaume dont Jésus est roi n'est pas de ce monde, c'est le royaume de la vérité. Or, le prince de ce monde, ou comme on pourrait dire le roi de ce monde, celui qui s'est accaparé l'autorité sur ce monde à travers la chute de nos premiers parents, à savoir Satan, à savoir l'ennemi, eh bien, le roi de ce monde, Jésus a dit, je crois que c'était dans Jean chapitre 8, aux pharisiens que c'est un menteur depuis le commencement. Du moins depuis le commencement de la grande controverse. Et très certainement depuis le commencement de ce monde, parce qu'il était déjà déchu avant que nos premiers parents fussent créés. Et donc le royaume de Dieu pour lequel nous prions et son règne, ce qui est plus ou moins synonyme, c'est le royaume et le règne de la vérité. Or, les royaumes de ce monde sont assujettis au roi du mensonge. Et ainsi, Jésus pouvait dire, mon royaume n'est pas de ce monde, ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. Ce n'est pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes principes. C'est pour cela que les royaumes du monde ne peuvent pas coexister avec le royaume de Dieu, parce que dites des principes diamétralement opposés sont ceux qui les gouvernent. Qui représentent leur fondement et leur base morale. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et pour poursuivre, quels autres attributs sont donnés à ce règne, ce royaume? Allez avec moi dans le psaume 97, versets 1 et 2. Le psaume 97, versets 1 et 2, il est écrit. L'Éternel règne. Que la terre tressaille de joie. Que les îles nombreuses se réjouissent. La nuée et l'obscurité sont autour de lui. La justice et le droit sont la base de son trône. La justice et le droit sont la base du trône du royaume de Dieu. Le trône sur lequel le roi de ce royaume s'assoit. Le trône est l'objet représentatif de la suprématie de Dieu et de son royaume. Et ce trône-là a pour base la justice et la droiture. Le règne et le royaume pour lequel nous prions, c'est un royaume de justice et de droiture. D'ailleurs, par rapport à cela, nous nous tournons vers les paroles de Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, qui est directement lié à la prière que nous sommes appelés à prier et qui lui ajoute une certaine ampleur et élargit sa signification. Dans Matthieu chapitre 6, 33, il est écrit Verset 31, le contexte le dit, ne soyez donc point en souci disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, etc. Parce que ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses. Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là, mais, verset 33, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc lorsque nous sommes appelés à prier que le règne et le royaume de Dieu viennent, nous sommes également appelés à chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, prier que ton règne vienne, c'est également être déterminé et choisir de chercher ce royaume premièrement et de ne pas nous inquiéter des autres choses pour lesquelles nous pourrions être en souci. Mais Dieu nous assure et nous donne une psychologie évangélique de libération en nous promettant que si nous nous focalisons sur ce que nous serions tentés de remettre à l'arrière-plan systématiquement, si nous nous focalisons sur cela en premier, c'est-à-dire le règne et le royaume de Dieu, alors Dieu s'occupera de toutes les choses pour lesquelles nous sommes sans cesse et souvent, ou parfois, en souci. Ne soyez donc point en souci pour toutes ces choses, en disant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Dieu dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Que cela soit votre priorité, quelles que soient vos circonstances, vos douleurs, vos épreuves, vos souffrances, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et dites de tout votre cœur et par vos actes et vos paroles et vos pensées que ton règne viennent. Nous cherchons en premier, quelles que soient les offres d'emploi, quelles que soient les facilités, quels que soient les conforts, que notre focalisation et notre parfaite concentration soient la préparation pour et la recherche et la pratique des principes du royaume de Dieu. Vous voyez ? Que ton règne vienne. Et tout ce que cela veut dire. Pour élargir encore le sens et les attributs qui nous sont donnés dans la parole de Dieu de ce royaume, nous nous tournons vers les paroles d'Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, versets 8 et 9. Hébreux chapitre 1, verset 8, il est écrit. Le verset 7 nous dit que quant aux anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu, mais, verset 8, celui qui nous intéresse, mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est pour toujours et toujours, et le sceptre de ton royaume est un sceptre de droiture. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi Dieu, même ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Au Fils, il dit, parce que le Fils est le roi, rappelez-vous. Le roi de son Église est le roi des rois, de telle sorte que lorsqu'il sera en contact direct avec les rois de la terre, ils ne pourront que s'assujettir à lui, mourir devant la gloire de sa face, parce que le royaume de Dieu est à lui. Ton trône, ô Dieu, est pour toujours, éternellement. Le sceptre de ton royaume est un sceptre de droiture. C'est Dieu, Jésus-Christ, le Fils, qui tient le sceptre de ce royaume pour lequel nous prions, qui est un royaume conduit et gouverné par la droiture, dans lequel le roi aime la justice et haït l'iniquité. Cela nous permet également d'élargir la nature de ce royaume pour lequel nous prions. C'est un royaume de justice, un royaume de droiture, un royaume de vérité. Lorsque nous prions que ton règne vienne, nous prions pour des choses qui souvent n'existent pas dans les règnes et les royaumes du monde. Et nous prions pour des choses qui, même pour aller plus loin, n'existent même pas dans nos propres vies. Et donc, prier que le règne de Dieu vienne, c'est d'abord et avant tout réaliser que nous demandons une transformation de nos propres vies pour que le royaume de Dieu, quand il vient, ne nous détruise pas complètement. Vous comprenez? Quand nous disons que ton règne vienne, ce n'est pas dire dans 6000 ans, non, c'est très bientôt. Aux portes du monde, et Jésus se tient aux portes de notre cœur pour que nous puissions réaliser qu'est-ce que cela veut vraiment dire quand nous prions que son règne vienne et se hâte de venir. Pouvons-nous, en toute conscience, prier cela? Sommes-nous prêts à prier cela? Et réalisons-nous les implications d'une telle prière? Pouvons-nous continuer de dire de tout notre cœur, Seigneur, apprends-nous à prier. Et apprends-nous à désirer, de vouloir dire de tout notre cœur ce que nous disons par nos bouches et nos lèvres. Quelle est donc, frères et sœurs, quel est donc le sens de la requête que nous, ou quel devrait être le sens de la requête que nous adressons à Dieu? Réalisons-nous les implications de nos propres paroles? Et sommes-nous prêts à ordonner notre vie d'une telle manière qu'elle corresponde parfaitement à notre prière? Où sont nos affections? Lorsque nous disons que ton règne vienne, où sont nos affections? Est-ce que nos affections sont sur la terre, avec les royaumes de la terre? Parce que la terre ne peut pas fonctionner et nous ne pouvons pas avoir les conforts que nous en retirons sans les royaumes de la terre. Tout cela fonctionne parce que les royaumes sont établis, fonctionnent. S'il n'y a plus les royaumes, ça serait l'anarchie. Vous voyez, donc, notre vie sur la terre est étroitement liée à l'existence et la pérennité des royaumes de la terre, dont les principes sont très souvent diamétralement opposés aux principes qui régissent le royaume de Dieu pour lequel nous prions. Vous réalisez un peu. Considérez avec moi, frères et sœurs, les affections de Jésus et la validité de ses prières. Dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11. La raison pour laquelle je parle de la validité de ses prières, c'est pour mettre en contraste les prières de Jésus et les nôtres, dont les cœurs sont souvent doubles. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11. Il est écrit ici au sujet de la troisième tentation que le diable fit assena à Jésus, pourrait-on dire, dans le désert de la tentation. Et sa grande tentation à la fin de son jeûne. Matthieu chapitre 4, verset 8, je lis. Le diable le mena encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu m'adores. Alors Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent et le servirent. Quand est-ce que les anges viennent? Lorsque nous avons résisté. Ils sont là aussi lorsque nous résistons, mais lorsque nous avons obtenu la victoire, nous obtenons une consolation incomparable de Dieu. Et c'est ce que qui nous est illustré par la victoire de Jésus sur le tentateur. Et sa résistance à la dernière, pour ainsi dire, tentation de Satan. Nous voyons ici que Jésus résista de tout cœur, à la proposition de Satan de lui offrir les royaumes de la terre. Son objectif suprême, et ce pourquoi il aspirait, c'était l'établissement et la venue du royaume de Dieu. Vous voyez ? La raison pour laquelle Jésus a résisté à cette offre, cette proposition du diable, c'est parce que l'objectif de Jésus et ce pourquoi il aspirait, c'était que le royaume de Dieu vienne et soit établi. Que disait-il ? Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et donc, les affections de Jésus étaient avec le royaume de Dieu, comme il nous instruit à le faire dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que nous lisions avant, à savoir « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Et lorsque le diable lui dit « Je vais te donner les royaumes du monde, comme ça tu n'auras plus à t'inquiéter de toutes ces choses, tu les auras. » Jésus disait « Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et toutes ces choses, c'est Dieu qui les ajoutera et pas toi. Vous voyez un peu comment Jésus, il a supplanté et il supplante, et il inverse les rôles que le diable lui-même essaierait de nous présenter à l'esprit en disant « Si tu me sers et tu m'adores et tu fais ma volonté, tu seras libéré des angoisses. » Jésus dit « Non, je déteste cela. Arrière de moi, Satan. Je ferai la volonté du Père et je prierai et je vivrai la prière qui dit que ton règne vienne. » Jésus disait, je veux pas de ton règne, Satan. Pouvons-nous, nos affections sont d'une telle nature que nous pouvons également dire de tout notre cœur, au diable, pour ainsi dire, je ne veux pas de ton règne, je veux le règne de Dieu. Pouvons-nous dire cela? Non pas que ce soit une invitation pour dialoguer avec le diable, mais pour que nous puissions réfléchir à la question de savoir si nos affections sont d'une telle manière sur Dieu pour que nous puissions dire au diable, lorsqu'il vient nous tenter, ça n'a pas de valeur, tout va détruire. Ça n'a pas de valeur, c'est du mensonge ce que tu me dis. C'est du mensonge. Jésus disait, en substance, « Je vois plus loin que toi, tu aimerais que je voie. Je vois le royaume de Dieu. Et je combats pour cela. » Où sont nos affections? Pouvons-nous nous identifier aux affections indivisées de Jésus pour le royaume, la justice et la gloire de Dieu? Plus encore, frères et sœurs, plus encore, quelle implication a cette prière? Que ton règne vienne. Quelle implication a-t-elle? Allez avec moi dans le passage de Matthieu chapitre 6, verset 19. Matthieu chapitre 6, nous sommes encore sur la question des affections ici, parce que j'aimerais vous faire nous faire discerner que la question du royaume de Dieu est indivisiblement liée à nos affections. Et la question de la validité de notre prière et de notre répétition de cette prière est étroitement liée à nos affections et à la place et à l'objet de nos affections. Nos affections sont-elles sur la terre et les choses et les personnes de la terre ou sont-elles avec Dieu? Nous affectionnons-nous à Dieu et au ciel, ou nous affectionnons-nous à la terre, à ses plaisirs, à ses attraits, à ses tentacules, sur nos émotions, nos sentiments? Réfléchissez. Matthieu chapitre 6, verset 19, nous lisons: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille corrompent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent rien, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent point. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. L'œil est la lumière du corps. Si donc ton œil est sain, tout ton corps sera plein de lumière. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera plein de ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et vous me direz, mais c'est quoi le rapport, mon frère? Le rapport, c'est que nous ne pouvons prier que ton règne vienne et en même temps avoir nos affections sur la terre et le royaume de Mammon. Le royaume de Mammon, c'est le royaume de l'argent, le royaume du confort, le royaume de moi, et Dieu, ça vient après. Vous comprenez? Dire de notre cœur et avec nos paroles, nos pensées et nos actes que ton règne vienne, c'est également réaliser que nous pouvons avoir nos affections à la fois sur le monde et avec Dieu, espérant et attend la venue de son royaume. Voyez, nul ne peut servir deux maîtres. Parfois, nous aimerions servir deux maîtres. C'est comme cela que le Laodicéen est présenté dans le message de Jésus, le témoin fidèle et véritable à Laodicée. Il dit, tu es tiède, tu boites des deux côtés, comme Élie le disait au peuple d'Israël sur le mont Carmel. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? À Laodicée, le message est le même, il dit, tu es ni chaud, ni bouillant, ni froid. Tu es tiède. Nous, naturellement, nous sommes enclins à vouloir servir de maître. Et donc, la prière de Jésus vient et nous est destinée à nous faire à recalibrer toute notre existence sur la terre en nous rappelant quelle est notre vocation et quelle devrait être notre vision et notre espérance en tant que chrétiens et disciples de Jésus-Christ. En tant qu'ambassadeurs, si nous sommes ambassadeurs de Christ, nous sommes ambassadeurs d'un royaume qui n'est pas de ce monde et qui va et dont le roi bientôt viendra pour calciner le monde par la gloire de sa présence. Nous sommes appelés et devrions être ambassadeurs de ce roi et de ce royaume-là. Que ton règne vienne. Comprenons-nous les implications de cette prière? Cette prière est une prière pour la dévastation et l'autodestruction finale des royaumes de ce monde afin qu'ils puissent être livrés entre les mains pour devenir constitués de par leur destruction le royaume de Jésus-Christ. Et donc, frères et sœurs, prier que le règne de Dieu vienne, c'est renoncer à l'établissement d'un règne à nous sur la terre, d'une prospérité dans ce monde. C'est renoncer à la tendance naturelle du cœur humain à vouloir s'attacher au bien de ce monde, aux relations de ce monde qui n'ont pas Christ pour leur fondement et leur direction. C'est la nature, la tendance naturelle de notre cœur charnel, c'est de nous attacher à ces choses, mais prier que le règne de Dieu vienne, c'est renoncer à cette tendance. C'est nous focaliser, mettre notre espérance dans la chose pour laquelle nous prions, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et plus encore, prier que le règne de Dieu vienne, c'est prier pour l'établissement de son royaume où il sera exclusivement le maître. Prier cela, c'est rejeter les royaumes que Satan a offerts à Jésus. Et ça ne veut pas dire que, oui, certes, Satan ne nous offre pas les royaumes de ce monde parce que nous n'en saurions que faire. Nous n'avons pas le calibre d'un roi des rois, ce que Jésus avait. C'est pour ça que la tentation du diable était si forte sur Jésus, c'est parce que il a la vocation d'être roi. Et Satan a toujours la fâcheuse tendance de nous tenter sur nos vocations en cherchant à nous détourner de ce pourquoi nous avons été conçus et destinés. Jésus est destiné à être roi des rois et seigneur des seigneurs. Et Satan lui disait, je t'offre les royaumes de ce monde. Jésus disait, mais moi je suis appelé à être roi des rois, mais pas comme cela. Quand ils se seront détruits, alors je serai roi d'eux. Je serai roi de leurs cendres. C'est comme cela que Jésus est appelé roi des rois. Il est appelé roi de ces rois-là parce qu'il les domine providentiellement par sa suprématie divine, mais pas parce qu'il règne sur eux sur la terre, parce qu'il disait « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il est venu en tant que roi pour rendre témoignage à la vérité, parce que le royaume qu'il est venu représenter au monde et à son église, à son peuple, c'est le royaume de la vérité. Je cherchais à nous orienter vers la conclusion de cette méditation aujourd'hui. Pour cela, j'aimerais que nous lisions la citation suivante qui se trouve dans Fundamentals of Christian Education à la page 332 et au paragraphe 1, cette petite phrase sur laquelle j'aimerais que nous puissions rebondir dans notre méditation de la parole de Dieu, qui nous dit, ceux qui croient en Jésus-Christ sont transformés de rebelles à la loi de Dieu en serviteurs obéissants et sujet de son royaume. Pardon. Qu'est-ce qui est marqué? Ceux qui croient en Jésus-Christ sont transformés d'étant d'une part, ou premièrement, rebelles à la loi de Dieu, ils sont transformés en serviteurs obéissants et sujets de son royaume. Donc, lorsque nous prions que ton règne vienne, nous exprimons également notre désir et notre préparation à nous-mêmes devenir sur la terre des sujets fidèles de son royaume. Hein? Nous sommes transformés de rebelles à la loi de Dieu en serviteurs obéissants et sujets de son royaume. Vous voyez? Donc on ne peut pas juste dire que ton règne vienne et moi je fais ma propre vie. Et puis quand il vient, bah, tu m'acceptes dans ton royaume. Parce que j'ai prié, bon, j'étais plus ou moins diligent, assidu, moyennement. Non. Prier cela, la prière nous est donnée pour que nous nous conformions à cette prière. Et une partie de cette conformité à cette prière, c'est d'accepter d'ores et déjà, ici-bas, d'être transformé par la grâce de Dieu en sujet fidèle et obéissant de ce royaume-là. Le royaume, c'est un royaume d'ordre et de discipline. Nous ne pouvons pas prier cette prière, et d'ailleurs nous sommes appelés à la prier en tant que disciples de Jésus-Christ, parce que c'est la prière que Jésus a confiée à ses disciples. Et nous devons être ceux qui ont reçu, qui ont été convertis au Seigneur à travers leurs paroles. Et cette prière que nous sommes appelés en tant que son Église et qui est censée véhiculer l'esprit qui nous anime, nous communique le fait que nous devrions d'ores et déjà nous préparer à être les sujets de ce royaume-là lorsque nous prions cela. Mais lorsque le royaume de Dieu vient, est-ce que Dieu il va accepter plusieurs petits atomes indépendants et divisés et inunissables, réticents à s'unir les uns avec les autres? C'est comme cela, le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est des choses qui sont évidentes. Et donc, prier que le royaume de Dieu vienne, c'est réaliser la nécessité et notre responsabilité de nous relationner à Dieu comme ses fidèles sujets, à savoir les fidèles sujets de son royaume. J'aimerais vous attirer votre attention vers les paroles de Exode chapitre 19, verset 6. Exode chapitre 19, verset 6, où il est écrit: par rapport à ce que nous sommes appelés à être d'ores et déjà lorsque nous nous conformons et nous réalisons la nécessité que nous nous conformions à ce royaume pour lequel nous prions. Je continue. Exode chapitre 19, verset 6, il est écrit: « Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et vous lisez aussi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10, dans la continuité de ce passage d'Exode. « Mais vous êtes une génération choisie, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple particulier, pour que vous démontriez les louanges ou manifestiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc, la raison pour laquelle j'ai lu ce passage, c'est pour vous montrer que nous sommes appelés par notre obéissance à la voix de Dieu à constituer un royaume de sacrificateurs. Nous avons lu ici. Vous êtes une sacrificature royale, un royaume de sacrificateurs, comme nous l'avons lu dans Exode. Destiné à rendre un culte et à faire des sacrifices à Dieu. Non seulement dans cette vie, mais à travers l'éternité. Vous comprenez, donc la prière que ton règne vienne, c'est réaliser également que nous avons une place et un rôle, une place, oui, à occuper, un rôle à jouer dans ce royaume pour lequel nous prions. Ce n'est pas juste pour que Dieu règne, c'est pour réaliser que nous sommes appelés également à constituer une partie intégrale et non négligeable de ce royaume. Mais nous ne pouvons faire partie de ce royaume-là que si nous, aujourd'hui, acceptons la responsabilité qui nous incombe de vivre d'une manière telle que nous puissions être vus par le ciel comme des fidèles sujets de ce royaume-là. Si vous allez dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 21, il est écrit, toujours dans la même ligne de pensée, de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où je lis ceci. Si donc, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation, à savoir que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en ne leur imputant point leurs offenses et il nous a confié la parole de la réconciliation. Nous sommes donc maintenant ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous exhortait par nous, nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons faits la justice de Dieu en lui. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous dit que lorsque nous désirons que le règne de Dieu vienne, il nous faut réaliser que nous sommes nous-mêmes appelés à constituer un royaume de sacrificateurs et que nous sommes nous-mêmes appelés à participer à la venue de ce royaume pour hâter cette venue. Comment? Dans le fait que nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ et que lui nous a donné à son tour le ministère de la réconciliation. Prier que le royaume de Dieu vienne, c'est réaliser que nous avons une part à jouer dans ce royaume-là et que cette part est celle de manifester et d'exercer ce ministère de la réconciliation dans lequel nous devrions être enrôlés en tant qu'un royaume de sacrificateurs et une sacrificature royale. Vous voyez? Et donc, comme Jésus nous a démontré et révélé le caractère et l'amour du Père, étant lui-même notre avocat et notre souverain sacrificateur auprès de Dieu, il nous a à son tour confié le ministère de la réconciliation, afin que nous occupions la fonction d'ambassadeur pour Christ, ce que nous venons de lire ici, verset 20, et de représentant de son royaume. Vous voyez? Qu'est-ce que c'était? Verset 20, nous sommes donc maintenant ambassadeurs pour Christ. Et Christ est le roi. Nous sommes ambassadeurs du roi, ambassadeurs du royaume de Dieu. Lorsque nous prions que ton règne vienne, nous occupons une part essentielle pour la venue de ce royaume qui est celle d'ambassadeurs, à savoir de personnes qui exercent ce ministère de la réconciliation dans lequel nous devrions nous-mêmes occuper cette place d'assurance de notre pardon, de notre acceptation auprès de Dieu par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et dans lequel ministère nous devrions également être si sécurisés dans cette assurance personnelle de notre rédemption que nous puissions également communiquer cette assurance pour ramener les brebis qui écoutent la voix de la vérité dans le bercail de la vérité de Jésus-Christ pour ces derniers jours. Voyez, que ton règne vienne. Nous occupons une place indispensable pour la venue de ce royaume. Parce que, ayant été nous-mêmes réconciliés, Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation pour que nous devenions ses instruments pour que d'autres puissent être réconciliés. Si peu soit-il, parce que nous sommes à la fin de la moisson, maintenant il n'y a qu'un petit glanage, nous ne devrions plus dire Les champs sont blancs et la moisson est prête, il y a tellement d'âmes. Nous ne devrions plus dire cela, mes frères et sœurs. Il faut arrêter. Mais bien que le glanage est très éparpillé et peu nombreux, qu'il y a très peu encore à récolter. Toutefois, dans Babylone, il y a déjà des personnes qui ont une relation avec Dieu, mais à qui la vérité n'a jamais été présentée dans toute sa splendeur, et pour que le royaume de Dieu vienne, nous jouons un rôle indispensable et essentiel pour que Dieu puisse nous utiliser si nous sommes bien ancrés dans l'assurance de notre propre sécurité avec Jésus-Christ, et si nous-mêmes nous marchons en tant que sujets fidèles et obéissants d'une manière constante et durable devant Dieu, afin que nous puissions également être utilisés par lui pour servir de pont entre les enfants de Dieu, son peuple dans Babylone, et le salut final, après, à la fin du temps de détresse. Et surtout pour la décision au sein de la fin de la grande controverse entre le bien et le mal sur la question de la loi de Dieu. Vous voyez, que ton règne vienne. Et j'aimerais lire la déclaration suivante pour conclure. Dans Instructions pour un service chrétien effectif, à la page 257 et au paragraphe 1er, il est écrit: l'instauration du royaume des cieux est retardée ou avancée selon l'infidélité ou la fidélité des instruments humains. L'œuvre est entravée parce que l'humain ne collabore pas avec le divin. Les hommes peuvent prier, de point, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais s'ils ne font rien pour que cette prière soit exaucée, leurs requêtes resteront sans réponse. Ou littéralement, leurs requêtes resteront sans effet. Notre requête n'aura pas d'effet ni de réponse si nous ne faisons rien pour qu'elle soit exaucée. Si nous-mêmes ne faisons rien pour qu'elle soit exaucée. Donc la prière est non seulement un appel au soutien de Dieu, mais avant tout un miroir de notre propre fidélité ou infidélité. Comprenez? J'aimerais lire également le passage suivant dans Fundamentals of Christian Education, à la page 209 et au paragraphe 1er. Dieu entend mettre en place, donc c'était dans le contexte des missions à l'étranger du temps de ce roi, donc on est au début du 20e siècle, mais ça a une certaine validité en termes de principes. Les principes qui sont énoncés, c'est cela que j'aimerais que nous soulignions et que nous relevions, et sur la base desquels nous puissions réfléchir et méditer. Dans le contexte de la prière pour que le règne de Dieu vienne. Je lis. Dieu entend mettre en place des forces dans votre pays pour contribuer à cette grande œuvre d'illumination du monde. Il a l'intention de vous employer, vous et vos enfants, comme soldats pour jouer un rôle dans cette guerre agressive contre les puissances des ténèbres. Et certainement, vous n'ignorerez pas la bénédiction de Dieu, et vous ne prendrez pas à la légère le privilège qui vous est accordé. Il voudrait que vous vous engagiez dans le conflit, que vous luttiez ensemble pour sa gloire, que vous ne recherchiez pas la suprématie, que vous ne vous efforciez pas de vous élever vous-même en dévalorisant les autres. Dieu aimerait, vous insuffler le véritable esprit missionnaire. Donc tout ce qu'il a mentionné avant, c'était le faux esprit missionnaire. Hein? lorsque nous luttons pour notre propre gloire, lorsque nous recherchons la suprématie sur les autres, lorsque nous nous efforçons de nous élever nous-mêmes en dévalorisant les autres. Dieu aimerait nous insuffler le véritable esprit missionnaire. Toutes ces autres choses-là, c'est le missionnariat du diable. Dieu aimerait vous insuffler le véritable esprit missionnaire, la véritable signification de cette prière pour que le règne et le royaume de Dieu viennent. Donc pas simplement la prière, mais la vie qui cherche à endosser la responsabilité d'exaucer sa propre prière. Je continue. Il aimerait vous insuffler le véritable esprit missionnaire, celui qui élève, qui purifie, qui ennoblit tout ce qu'il touche, rendant pur, bon et noble tous ceux qui se placent volontairement sous son influence. Car tout agent qui coopère avec les intelligences célestes sera revêtu de la puissance d'en haut et représentera le caractère de Christ. L'esprit missionnaire nous permet d'apprécier plus pleinement les paroles de la prière du Seigneur dans lesquelles il nous enjoint de prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'esprit missionnaire élargit nos pensées et nous unit à tous ceux qui comprennent l'influence grandissante du Saint-Esprit. Vous avez compris? L'esprit missionnaire, ce n'est pas juste de s'accaparer de son propre ministère pour élever sa propre gloire, s'élever nous-mêmes en dévalorisant les autres, etc., etc. Ça, ce n'est pas l'esprit missionnaire, mes frères et sœurs. C'est l'esprit satanique, mais revêtu d'un vêtement religieux de piété, de zèle. Alors que le véritable esprit missionnaire élargit nos pensées, au-delà de simplement notre propre mission autoproclamée. Le véritable esprit missionnaire de Christ élargit nos pensées et fait quoi? Nous unit à tous ceux qui comprennent l'influence grandissante du Saint-Esprit. Le véritable esprit missionnaire jamais ne nourrira la possibilité de travailler tout seul en dépit et en séparation des autres, des autres qui comprennent l'influence grandissante du Saint-Esprit. C'est pas possible, mes frères et sœurs, de faire du missionnariat seul, sans le conseil, sans le soutien, sans les prières et sans la coopération des autres qui ont reçu ce même esprit. J'aimerais lire encore une fois juste le début de ce passage et après le reste, je vous laisserai pour votre temps libre parce que le début est quand même très important. Il est écrit dans « Puissance de la grâce » à la page 348 et au paragraphe 2, le suivant. Les disciples de Christ attendaient l'établissement immédiat de son royaume de gloire. C'est cela qu'ils pensaient que Jésus allait instaurer et établir, le royaume de gloire. C'est pour cela que lorsqu'il marchait vers Jérusalem sur son âne, beaucoup disaient « Hosanna, Hosanna au fils de David ». Ils croyaient que c'était le début du royaume de gloire. Jésus, il était content des acclamations, mais il savait également, comme c'est écrit dans l'esprit de prophétie, que beaucoup de ceux qui l'acclamaient alors, plus tard, demanderaient à ce qu'il soit crucifié. Les disciples de Christ attendaient l'établissement immédiat de son royaume de gloire. Mais par cette prière, celle que nous étudions, Jésus leur enseignait qu'il n'était pas sur le point d'être instauré, parce qu'il leur inculquait à dire et à prier « Que ton règne vienne ». Il leur inculquait une prière qui allait caractériser leur prière pendant des siècles et des siècles. Et donc, lorsqu'ils entendaient cette prière, ils se disaient « Ah ouais, c'est ça la prière? Mais c'est pas maintenant le royaume. » Vous voyez ? C'est ça. Sauf que pour nous, c'est à la porte. Pour eux, ce n'était pas sur le point d'arriver. Pour nous, c'est l'inverse de cela. Mais toutefois, ce devrait également être notre prière. Sauf que maintenant, il nous incombe de comprendre les implications personnelles et ce que cela implique pour nous de prier cette prière et de vivre en accord avec elle. Il devait prier, il avec ILS, devait prier pour sa venue comme pour un événement à venir. En même temps, cette prière était une assurance pour eux, quoique ce royaume ne devait pas être établi de leur vivant, le fait que Jésus les ait invités à prier pour qu'ils viennent prouve qu'il viendra sûrement à l'heure fixée par Dieu. Nous vivons aujourd'hui l'établissement du royaume de la grâce. Royaume de la grâce, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tandis que jour après jour, des cœurs qui ont été remplis de péché et de rébellion s'abandonnent à la souveraineté de l'amour de Dieu. Mais le royaume de sa gloire ne sera pleinement établi qu'au retour de Jésus à cette terre. Ce n'est qu'à la venue personnelle de Jésus que ses disciples recevront le royaume, comme le prouvent ces paroles du Sauveur de point. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite de point, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu chapitre 25, versets 31 à 34. À la venue du Fils de l'homme, les morts ressusciteront incorruptibles et les vivants seront changés. C'est par ce grand changement qu'ils sont préparés à recevoir le royaume. L'homme, dans son état actuel, est mortel et corruptible. Mais le royaume de Dieu sera incorruptible et subsistera éternellement. Par conséquent, l'homme dans son état actuel ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, à sa venue, Jésus confère l'immortalité à ses élus et les met en possession d'un royaume dont ils n'ont été jusqu'alors qu'héritiers. Si vous êtes Christ, si vous êtes à Christ, toutes choses sont à vous, mais vous êtes dans la situation d'un enfant qui n'est pas encore entré en possession de son héritage. Dieu ne vous confie pas votre bien précieux, de peur que Satan ne vous séduise par ses artifices, comme il a séduit nos premiers parents en Éden. Christ le garde pour vous hors de la teinte du destructeur. Voilà ce que cela veut dire de prier que le règne de Dieu vienne. Nous prions pour son royaume de gloire. Nous vivons aujourd'hui l'établissement du royaume de la grâce, tandis que jour après jour, les cœurs qui ont été remplis de péché et de rébellion s'abandonnent à la souveraineté de l'amour de Dieu. Nous vivons sous le royaume de la grâce et la souveraineté de l'amour de Dieu. C'est ainsi que nous nous soumettons aujourd'hui à Jésus comme à notre roi, mais nous prions pour l'établissement et l'instauration du royaume de gloire. Mais lorsque ce royaume de gloire viendra, il n'y aura plus de miséricorde. Et c'est pour cela que nous voulons, dans nos prières, nous voulons comprendre que nous bénéficions aujourd'hui des avantages du royaume de la grâce de Dieu. Et nous voulons nous les approprier d'une telle manière à pouvoir prier et à être prêts lorsque viendra le royaume de la gloire de Dieu. Ce même royaume qui brisera tous les royaumes de la terre et qui finalement subsistera éternellement. Voilà, frères et sœurs, voilà ce que cela veut dire pour nous de penser, de réfléchir et de prier. Que ton règne vienne. Puisse Dieu nous aider à prier sincèrement, véritablement et à vivre d'une telle manière que nos prières ne resteront pas sans réponse. Vivons d'une telle manière que Dieu puisse réellement exaucer en coopération avec nos efforts notre propre prière. C'est ma prière. Et je prie que ce soit également la vôtre. Au nom de Jésus. Amen.